Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement. Jean Dalibar.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Bienvenue dans ce nouveau cours de la série de cette année. Série qui, comme je vous le rappelle, est consacrée aux interactions magnétiques dans les gaz d'atomes froids. Et le cours d'aujourd'hui, eh bien, est intitulé « Un liquide quantique magnétique ». Donc, on va parler de liquide. Alors, avant de commencer, je vous rappelle les prochains séminaires. Tout à l'heure, on aura le plaisir d'entendre Patricia Vignolo de Nice, qui va nous parler de l'effet boomerang quantique. La semaine prochaine, Daniel Suchet nous parlera d'énergie solaire photovoltaïque. Et dans deux semaines, ce sera Guido Pupilio de Strasbourg qui nous parlera de localisation de spin désordonnées en électrodynamique quantique en cavité. Et ce même jour, le 5 avril, l'après-midi, on aura un atelier que je co-organise avec Michel Brune sur les atomes de Rydberg et la simulation quantique, avec comme intervenant le même Guido Pupilio qui parlera le matin, mais il ne racontera pas la même chose, hein, il parlera de simulation quantique l'après-midi. Et puis Monica Edelsberger, Thomas Herral, Thierry Lahaye, Clément Serrin et Benoît Vermersch. Voilà. Et comme toujours, hein, ces ateliers sont ouverts à tout le monde, sans inscription. C'est dans le cadre de l'enseignement au Collège de France. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces ateliers, en particulier les sujets de ces différents intervenants, vous pouvez aller voir sur ma page web. Il y a également des affiches qui sont dans l'enceinte du Collège. Voilà. Donc, je commence par un point sur l'endroit où on est maintenant dans ce cours. Donc, on s'intéresse à des gaz d'atomes. Ces atomes sont ultra-froids, température, disons, autour de quelques nanokelvin, quelques dizaines de nanokelvin. Et on suppose que les atomes ont des interactions dipolaires magnétiques importantes, c'est-à-dire que chaque atome porte un moment magnétique qui est nettement plus grand que le magnéton de bord pour les atomes de la colonne des alcalins, par exemple. On s'intéresse à des atomes de type dysprosium, erbium. Donc, cette interaction peut être forte, avec un effet supérieur à celui d'une interaction de contact. Je vais, dans un instant, essayer de rendre ça un peu plus concret. Mais tout de suite, je vous indique deux aspects importants de cette interaction qui jouent un rôle dans tout le cours. C'est d'une part que l'interaction dipôle-dipôle est à relativement longue portée. Elle décroît comme 1 sur R3 à l'infini, ce qui fait que quand on est à 3 dimensions et qu'on a des intégrales avec un jacobien en R2-dR, ça fait une intégrale qui ne converge pas forcément. Et par ailleurs, quelque chose qui joue un rôle important dans tout le cours, en particulier aujourd'hui, vous allez le voir, c'est le fait que cette interaction est anisotrope, c'est-à-dire que si je mets mes dipôles côte à côte comme ceci, eh bien, les dipôles se repoussent. En revanche, si je les mets l'un derrière l'autre comme ça, eh bien, ils s'attirent. Donc cette anisotropie joue un rôle essentiel dans toute cette physique des gaz avec des interactions dipolaires magnétiques. Dans tout le cours, je suppose que les dipôles sont alignés ensemble, enfin, selon le même axe. Il y a un champ magnétique extérieur qui est important, et donc l'interaction moins mu scalaire B entre le dipôle mu et le champ magnétique B fait que les dipôles s'alignent avec le champ magnétique. Alors cette interaction, donc, je vais l'écrire au tableau, puisqu'on va encore s'en servir beaucoup aujourd'hui. Donc cette interaction dipôle-dipôle, cette interaction complète, hein, V de R, c'est d'une part l'interaction de contact, G delta de R, donc je modélise l'interaction de Van der Waals sous la liaison chimique par une interaction de contact G delta de R, où G est relié à la longueur de diffusion petit a par la formule G égale 4 pi h bar 2 a sur m, donc petit a c'est donc la longueur de diffusion qui régit les interactions de type Van der Waals en ondes S. Et puis donc on a l'interaction dipôle-dipôle que j'écris sous la forme 3 fois GDD sur 4pi, ça c'est un préfacteur, le 1 sur R3 que je mentionnais, et puis le terme anisotrope, 1 moins 3 fois cosinus carré θ, où θ est l'angle entre donc mon rayon vecteur petit r, qui est celui que j'évalue ici, et puis l'axe des dipôles, donc je vais toujours supposer aligné selon z. Voilà. GDD, donc c'est ce qui caractérise la force du couplage dipôle-dipôle. C'est 1 tiers de mu 0, la permittivité magnétique du vide, fois mu carré, le moment porté par chaque atome. Et ça, je peux aussi l'écrire sous la forme 4 pi h bar 2 ADD sur m, par analogie avec cette formule-ci, où ADD a également la dimension d'une longueur. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est a bien réalisé, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que G et GDD s'expriment dans la même unité. Donc c'est un sens de les comparer, c'est un sens de faire le rapport entre eux. Quand je fais le rapport, j'ai un nombre sans dimension et je peux voir si GDD domine ou si G domine. Et c'est facile de voir pourquoi ils ont la même dimension, hein, puisque GDD fois R cube, enfin, GDD c'est un volume, le 1 sur R cube qui est là, fois V de R, une énergie. Et de la même façon, petit g ici, c'est V de R divisé par une distribution de Dirac, et la distribution de Dirac est elle-même en 1 sur R, 1 sur un volume, à 3 dimensions. Donc G et GDD ont la même unité, à savoir une énergie fois un volume, et donc ça a un sens de les comparer. Et dans tout le cours, eh bien, je dirais que j'ai affaire à des interactions fortes, interactions dipolaires fortes, c'est équivalent pour moi à dire que GDD est plus grand que G. Voilà. Bien. Alors, ceci étant dit, donc le point important dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dès qu'on a dans un système une possibilité d'avoir une attraction, c'est-à-dire d'avoir une énergie qui devient d'autant plus basse, qui tend vers moins l'infini quand la distance entre les particules tend vers zéro, eh bien ça c'est une source d'instabilité, évidemment, puisque le système va avoir tendance à minimiser son énergie, donc les particules vont avoir tendance à se rapprocher les unes des autres, pourvu qu'elles s'alignent comme ceci. Alors, ces instabilités, on en a vu deux types. Le premier type, on l'a rencontré dans le cours 2, il y a deux semaines, c'était une instabilité qu'on pouvait qualifier de globale. Si on mettait les atomes dans un piège harmonique, disons isotrope pour simplifier, donc même fréquence d'oscillation selon les trois axes x, y, z, eh bien ce qu'on avait vu, c'est que dès que GDD dépassait G, à très peu près, hein, donc dès qu'on rentrait dans le régime des interactions dipolaires fortes, eh bien, à ce moment-là, il y avait un effondrement du gaz sur lui-même, c'est-à-dire que je minimisais l'énergie en fabriquant non pas un gaz qui avait la symétrie sphérique comme le piège qu'il confinait, mais une symétrie très allongée comme cela. Et ça, ça a été vu assez tôt dans l'histoire des gaz magnétiques, ça a été vu dans le groupe de Tillmann-Pfau à Stuttgart, dès 2008, où avec des atomes de chrome, donc des atomes qui sont magnétiques, mais moins magnétiques que le dysprosium dont on va parler tout à l'heure, par exemple, eh bien, ils avaient vu que, effectivement, le gaz, quand on se plaçait dans... quand on changeait brusquement le rapport entre GDD et G et qu'on se plaçait dans ce régime-là, eh bien, le gaz implosait et ça générait après une expansion balistique ces figures assez jolies où on voyait des atomes partir très vite dans le plan horizontal. Deuxième instabilité, c'est celle qu'on a rencontrée la semaine dernière, qui est une instabilité qui est locale cette fois-ci. L'idée pour cette instabilité, c'est de se dire, bon, bah, puisque l'instabilité globale, ça consiste à mettre beaucoup d'atomes le long d'une ligne comme ça, eh bien, on va geler le mouvement selon Z, donc on va confiner fortement les particules selon Z pour les empêcher de former ces lignes. Et malgré tout, il reste des instabilités possibles. Et cette instabilité locale, eh bien, on l'a vu en regardant l'excitation, les modes d'excitation possibles du gaz dans le plan XY, donc dans le plan perpendiculaire au dipôle. Et on a montré que la relation de dispersion de ces excitations, par une méthode de Bogolubov, eh bien, elle pouvait avoir la structure suivante, avec un oméga en fonction de k, donc fréquence en fonction du vecteur d'onde, qui démarre linéairement, ça c'est typique de phonon, hein, de relation linéaire entre oméga et k, la pente étant la vitesse du son, mais ensuite il y a un passe par un maximum local, et puis ça peut redescendre, et ça peut même toucher l'axe ici. Donc là, on se retrouve avec des excitations qui ont un vecteur d'onde non nul, mais qui néanmoins ne coûtent aucune énergie. Donc c'est la source encore d'une instabilité, puisque sans payer aucune énergie, je peux faire pousser comme ça une excitation, c'est-à-dire une onde, dans le plan XY, avec ce vecteur d'onde K particulier, donc qu'on avait appelé ici K roton. Voilà. Donc le thème des prochains cours, eh bien, ça va être de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive à notre gaz quantique quand on dépasse un des seuils d'instabilité. Aujourd'hui, on va se mettre dans le cas où il y a une absence complète de piège, et on va montrer que ce qu'on voit apparaître, c'est un état liquide. Et ce que j'appelle état liquide ici, c'est un état qui a une densité constante, indépendante du nombre d'atomes. Donc à l'absence de tout piège, eh bien, on forme un état donc qui n'est plus un gaz, je vais revenir là-dessus. Et puis la semaine prochaine, on se placera au contraire en présence d'un fort confinement selon l'axe des dipôles, donc on reprendra notre plan XY avec les dipôles comme ça, ou alors ce sera un tube simplement long de l'axe X, toujours avec les dipôles perpendiculaires au degré de liberté selon lesquels les atomes peuvent se déplacer. Et donc là, on verra apparaître la notion d'état supersolide. Alors le plan d'aujourd'hui, c'est le suivant. Je voudrais commencer, puisque je vais parler de liquide, par vous raconter des choses sur un autre liquide qui forme de très belles gouttelettes quantiques, qui est l'hélium. Ensuite, on passera à nos atomes froids. Je vous montrerai comment est-ce qu'un état liquide peut émerger dans toute généralité. Et on verra qu'un des ingrédients essentiels, c'est d'aller au-delà du champ moyen que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, et en particulier une énergie qu'on appelle l'énergie de Li Wang-Yang, des noms des trois auteurs qui l'ont calculée pour la première fois. Une fois qu'on aura ça, on pourra calculer l'état d'énergie d'une gouttelette dipolaire, et je finirai en décrivant les expériences et quelques caractérisations donc, de ces gouttelettes. Bien, donc je commence par l'hélium. Les gouttelettes d'hélium liquide, c'est un sujet qui a été très, très vigoureux, si je puis dire, entre les années 2090 et puis le début des années 2000. Ce que je vais vous raconter, c'est inspiré directement d'un article de revue écrit par Toniz, Vilesov et Whaley. Leur figure de base, eh bien, c'est celle-ci. C'est celle qui sert à produire ces gouttelettes d'hélium. On part d'un gaz hélium à haute pression, quelques bars, jusqu'à quelques dizaines de bars, et on laisse ce gaz se détendre dans le vide. Donc, vous avez une détente adiabatique où vous passez de quelques bars ici à quelques microbars là. Et donc, dans cette détente adiabatique, le gaz refroidit fortement, et les atomes d'hélium se condensent les uns avec les autres pour former des gouttelettes. On filtre spatialement le jet qui part avec un petit orifice ici qui fait seulement quelques micromètres. Et en variant à la fois la différence de pression, enfin donc essentiellement la pression dans le container là, et puis la taille de l'orifice, on peut sélectionner le nombre d'atomes dans la gouttelette. Ce nombre varie, disons, entre 1000 et 100 000 à peu près. Voilà. Et ça, c'est ajustable. Et vous verrez, après, on mesure ce nombre d'atomes avec la spectroscopie de masse qui permet de savoir combien on avait d'atomes au départ. Et ce qui est remarquable, eh bien, c'est que quand la gouttelette se propage sous vide, eh bien, sa température refroidit rapidement pour se stabiliser à une valeur qui est bien en dessous de la température à laquelle l'hélium liquide devient superfluide. Cette température de transition est aux alentours de 2 Kelvin. Et là, les gouttelettes d'hélium 4 refroidissent pour atteindre des températures de 0,3 à 0,4 Kelvin. Alors, cette physique de l'évaporation, en fait, elle est assez proche de l'évaporation qu'on utilise dans les expériences de gaz quantique. Et je voudrais donc en dire un mot, parce que c'est un très joli modèle qui avait été fait par Brink et Strigari en 90, donc il y a déjà un certain temps, mais qui, en fait, a infusé dans le domaine des atomes froids, et c'est toujours bien de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, dans ce papier de Brink et Strigari, l'hypothèse, c'est donc qu'on a une gouttelette liquide d'hélium qui est dans le régime superfluide. Et ce que je vais vous dire, c'est vrai, si le nombre d'atomes dans la gouttelette n'est pas trop grand, il faut typiquement que ce nombre soit inférieur à 1 million, mais comme je l'ai dit, les nombres sont plus entre 1000 et 100 000, donc cette hypothèse est bien vérifiée. Et à ce moment-là, ce qu'on peut montrer, c'est que l'énergie est essentiellement concentrée dans les modes de surface de la gouttelette. C'est-à-dire que si je fais un dessin, vous avez la gouttelette qui est donc sphérique, il n'y a aucune anisotropie dans le problème, vous avez la gouttelette sphérique, et puis les excitations de la gouttelette, c'est essentiellement des modes comme ça, qui ne changent pas le volume total de la gouttelette, mais qui déforment légèrement sa surface. Et on peut calculer à ce moment-là l'énergie d'une gouttelette avec n atomes. Ça va être une énergie qui va être proportionnelle à la surface, donc, puisque ce sont les modes de surface qui comptent. Les modes de volume, si vous voulez, ce seraient des modes où la gouttelette se contracterait sur elle-même en augmentant sa densité, puis en s'étendrait comme ça. Et ces modes-là coûtent trop d'énergie pour être significativement peuplés, au moins pour ces nombres d'atomes. Donc l'énergie de la gouttelette, c'est proportionnelle à la surface, et puis une certaine puissance de la température qui ne va pas jouer de rôle dans ce que je vais dire. Et donc, cette gouttelette peut se refroidir en évaporant des atomes, c'est-à-dire en prenant un atome ici et puis en l'éjectant de la gouttelette. Quand ça se produit, eh bien, l'énergie des n-1 atomes restants, c'est l'énergie initiale, moins l'énergie de liaison de l'atome qu'on éjecte, qui se calcule et qui est de l'ordre de 6 Kelvin, la constante de Boltzmann, et puis en plus, l'énergie cinétique de l'atome qui est éjecté, mais celle-là, elle est négligeable, parce que, je vous dis, les gouttelettes, comme on va voir, sont à une fraction de Kelvin, donc ça, c'est petit devant les 6 Kelvin, donc essentiellement, l'énergie qui est perdue à chaque atome éjecté, c'est ce 6 Kelvin. Voilà. Ensuite, on peut calculer le taux d'évaporation, le taux avec lequel ce processus d'éjection d'un atome et de perte de l'énergie epsilon 0 se produit. Et là, c'est encore quelque chose qui est proposé à la surface, une certaine puissance de la température, et puis une loi qui est un facteur de Boltzmann, si vous voulez, c'est une loi d'Arrhenius, comme on dit en chimie, un exponentiel de moins epsilon 0, l'énergie de liaison à fournir pour éjecter l'atome, divisé par KBT. Et une fois qu'on a ça, qu'on a l'énergie qui est proposée à la surface et le taux d'évaporation qui est lui-même proportionnel à la surface, eh bien on a une évolution de la température, d de grand T sur d petit t, l'évolution temporelle, qui est une loi de puissance fois ce puissance moins epsilon 0 sur kT. Et ce qui est remarquable, c'est que du coup, on obtient quelque chose qui est indépendant de la taille de la goutte. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'atomes que j'ai, c'est-à-dire quelle que soit la taille de la surface, eh bien, j'ai une loi d'évaporation, une loi d'évolution de la température qui est la même pour tout le monde. Et le résultat, donc, ben, je l'ai tracé ici, toujours de cet article de Brink et Stringari. Vous avez une évolution de la température ici en fonction du temps. Et le temps ici est écrit en log, enfin c'est une échelle logarithmique. Donc le temps qui est à moins 6 ici, c'est une microseconde. Et le temps qui est à moins 3 ici, c'est une milliseconde. Et les durées d'expérience entre le moment où la gouttelette sort du container et puis le moment où on va me faire des choses avec, c'est de l'ordre de la milliseconde. Et ce que vous voyez, c'est que la température finalement évolue très peu. Hein. À une microseconde, on trouve que la température vaut 0,4 microK à peu près, et à 3 millisecondes, elle en vaut 0,3. Donc finalement, ça a un sens de parler de la température des gouttelettes, quelle que soit leur taille initiale et puis le temps pendant lequel elles sont propagées, du moment que ce temps est entre une milliseconde et une microseconde. Vous pouvez me demander comment est-ce qu'on mesure de telles températures. Eh bien, je vais vous décrire dans un instant comment on s'y prend. Mais pour le dire très vite, ce qu'on met à l'intérieur de la gouttelette, c'est une molécule étrangère, et on fait de la spectroscopie de cette molécule, on regarde la population de ces différents traits de vibration et de rotation, et en fonction du poids des raies, on en déduit la température du milieu dans lequel la molécule étrangère est plongée, c'est-à-dire la température de l'hélium liquide ici. Il y a également ici des courbes qui sont pour l'hélium 3, on a pu faire les mêmes expériences avec de l'hélium 3 et de l'hélium 4. Alors pour l'hélium 3, la situation est un petit peu différente. C'est un gaz de Fermi qui est non superfluide à ces températures-là. Donc à ce moment-là, les modes dominants sont des modes de volume, ce n'est pas des modes de surface. Et la conséquence, eh bien, c'est que l'évolution de la température à ce moment-là dépend de la taille de la gouttelette, mais elle en dépend assez faiblement. Ici, vous avez deux exemples que donnent Brink et Stringari. Celle du haut, c'est une gouttelette d'hélium 3 avec 1 million d'atomes. Celle du bas, c'est une gouttelette d'hélium 3 avec 1000 atomes seulement. Et vous voyez que les températures sont voisines. Elles sont plus basses que pour l'hélium 4, parce que l'hélium 3 est plus léger, et ces températures sont de l'ordre de 0,15 Kelvin. Alors, quel type d'expérience on peut faire avec ça? Eh bien, il y a vraiment eu une foison de très jolies manips faites, je vous ai dit, dans les années 90 et 2000. Ces gouttelettes forment vraiment un mini-laboratoire cryogénique, c'est-à-dire qu'on peut mettre dedans des corps étrangers, des molécules, donc comme je le disais, et utiliser donc cet environnement très froid de la gouttelette pour manipuler les molécules. Donc l'expérience dans sa totalité est comme ça. On part de la gouttelette qu'on a formée, que je viens de décrire. On l'envoie dans une chambre dans laquelle on a ces molécules qui sont sous forme gazeuse. Une gouttelette peut capturer une molécule. Elle continue à se propager. Tout ça, c'est dans le vide. Hein. Elle continue à se propager. Et puis avec un laser, on va faire la spectroscopie de la molécule. Donc on va faire en sorte que la molécule absorbe un photon. Et ensuite, l'énergie de ce photon va être dissipée sous forme de chaleur dans la gouttelette. La gouttelette va pour ça évaporer de nouveaux atomes, et donc elle va perdre en masse. Et on mesure finalement cette perte de masse de la gouttelette en envoyant la gouttelette dans un spectro de masse, et puis en regardant le signal du spectro de masse, c'est quand il y a eu une absorption résonante de photons par la molécule ici, eh bien ça correspond à une chute du signal du spectro de masse. Donc là, j'ai détaillé la séquence. Un photon absorbé par la molécule, évaporation de beaucoup d'atomes pour dissiper l'énergie, diminution de la taille de la gouttelette, diminution de la probabilité d'ionisation à l'intérieur du spectre de masse, et donc diminution du signal. Et voilà ce qu'on voit. Ici, j'ai pris une molécule, mais il y en a eu plusieurs dizaines en fait, qui ont été étudiées de molécules. Mais là, c'est une molécule donc, de sulfure de carbonyle. Donc, vous avez le radical carbonyle CO avec un atome de soufre ici, une molécule triatomique allongée. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est quand on fait cette spectroscopie, on voit des raies très étroites, Et ça, c'est vraiment une signature directe du fait que la gouttelette d'hélium 4 est superfluide. C'est-à-dire que la molécule, elle, peut tourner sans la moindre friction à l'intérieur de ce bain liquide, et on continue à avoir des raies de vibration et de rotation très étroites. Le moment d'inertie de la gouttelette est renormalisé par la présence du bain superfluide, mais ça reste un objet qui tourne sans la moindre dissipation. Et ça, c'est à contraster avec la même expérience faite avec l'hélium 3. L'hélium 3, je vous ai dit, les gouttelettes sont en fait plus froides, hein, un facteur 2 plus froide, mais néanmoins, l'hélium 3 n'est pas superfluide à cette température-là. Il faut refroidir plutôt dans le domaine de millikelvin ou une dizaine de millikelvin pour atteindre la superfluidité de l'hélium 3. Donc, l'hélium 3 n'est pas superfluide à cette température-là. Et à ce moment-là, ben, on ne voit pas des raies très bien marquées comme ici. On voit une grosse structure. Mais ça, c'est simplement parce que nos gouttelettes se retrouvent comme dans un liquide ordinaire. Il y a plein de friction dans la rotation et donc on ne sait pas résoudre les raies individuelles. Voilà. Donc, ce sont vraiment des très, très jolies expériences et je trouve qu'il y a quand même une belle correspondance entre ce qui se fait avec des atomes froids et puis ce qui se faisait dans ces années-là avec les gouttelettes d'hélium liquide. Bien. Je passe maintenant à ce qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir l'émergence d'un état liquide dans nos systèmes d'atomes froids. Alors, quelle est la différence entre un gaz et un liquide ? Là, je vais faire de la leçon de choses comme on faisait au moins à mon époque quand on était à l'école primaire. Un gaz, c'est un corps qui tend à occuper tout le volume qu'on lui offre. Pour le dire en des termes qui n'étaient pas ceux de l'école primaire, l'énergie est une fonction croissante de la densité. Donc, si je veux minimiser l'énergie, eh bien, j'ai intérêt à faire une densité la plus faible possible, donc remplir tout le volume qui est accessible. Si je prends un liquide, au contraire, eh bien, le liquide, lui, on a envie de dire, il se moque un petit peu du volume qu'on lui offre. Les molécules ou les atomes s'arrangent de façon à former un édifice avec une certaine densité d'équilibre ρ0. En général, ça résulte du fait qu'on a une attraction à longue distance des différents constituants et puis une répulsion à courte distance pour pas qu'ils se précipitent les uns sur les autres. Et on obtient comme ça un certain volume d'équilibre, donc, qui est simplement relié par n sur v égale ρ0, donc le volume est proportionnel au nombre de particules. Alors, si on est sur la Terre, eh bien, ce liquide va se coller sur le fond des parois. Si on est en apesanteur, ben, on fait comme le capitaine Haddock et son whisky, hein, on a le liquide qui sort et puis ça forme un volume à peu près sphérique. Et c'est ça qu'il faut garder en tête pour les liquides qu'on va former tout à l'heure dans nos gaz d'atomes froids. Ils seront dans le vide, en suspension, et donc ce sera un petit peu l'équivalent de cette petite boule de whisky là. Ce sera moins bon, hein, je pense. Voilà. Alors, si j'essaie d'être un petit peu plus quantitatif, comment est-ce qu'on forme un liquide ? Donc, comme je disais, il faut qu'à longue distance, ou donc à faible densité, j'ai une attraction entre les particules. Donc, il faut que si je trace l'énergie par particule epsilon de rho en fonction de la densité rho, eh bien, il faut que mon énergie à petite densité soit négative. Donc, je vais mettre quelque chose avec une pente ici, qui est négative. Donc, j'écris ça epsilon de rho égale moins 1,5 de valeur absolue de G effectif. Donc, c'est G effectif, c'est ce terme de proportionnalité, mais que je prends négatif ici. Donc, moins 1,5 de G rho. Et puis, je ne veux pas que mon système s'effondre sur lui-même. Donc, il faut que j'ai quelque chose qui, à haute densité, prenne le pas sur cette variation linéaire de l'énergie avec la densité. Donc, il faut que je rajoute un autre terme. C'est très phénoménologique, hein, ce que je vous dis pour l'instant. Il faut que je rajoute un autre terme que je vais prendre comme une puissance de rho, donc un rho puissance alpha, avec un exposant plus grand que 1. Et à ce moment-là, ben, je vais avoir une courbe de ce type-là, donc à basse densité et attraction, et puis passage par un minimum qui va correspondre à la densité de mon liquide. Et puis si j'essaie de le comprimer trop fort, eh bien là, l'énergie augmente beaucoup, donc mon système sera stable à cette densité rhomine. Et cette densité, ben, je l'obtiens en minimisant cette fonction, et bon, ben, ça donne le résultat. Hein. Je fais la dérivée d epsilon sur d rho égale 0, et j'obtiens le résultat qui est écrit ici. Alors, dans ce qui va suivre, ce que je vais mettre dans G effectif ici, ce seront les interactions, à la fois les interactions de contact qui sont là, et les interactions dipolaires qui sont ici, que je vais décrire dans une théorie de champ moyen. Et le terme en rho puissance alpha ici, avec alpha plus grand que 1, eh bien, ce seront les corrections au-delà du champ moyen, ce qu'on appelle donc l'énergie de Li-Wang-Yang. Et à ce moment-là, le coefficient alpha, ben, on ne le choisit pas, hein, il est fourni par la théorie, et il vaut 3,5. Mais c'est comme 3,5 est plus grand que 1, on est content. Et d'ailleurs, cette courbe-là, je l'ai tracée avec alpha égale 3,5. Voilà, donc voilà ce qu'on va chercher à faire. Alors, est-ce qu'on peut faire un liquide avec les condensats usuels, c'est-à-dire des condensats où on a simplement l'interaction de contact ici? Eh bien, la réponse est non, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas eu de fait. Donc, si je prends simplement mon interaction de contact G delta de R, l'énergie totale, c'est 1,5 de G rho n, si vous préférez 1,5 de G rho par particule, avec le G donc, qui est relié à la longueur de diffusion. Si A est positif, eh bien, à ce moment-là, j'ai une énergie qui croît avec la densité, donc là, ça ne va pas marcher, je suis sûr d'avoir un gaz. Si je prends petit a négatif, donc une longueur de diffusion négative, ce qui est possible, hein, il y a des atomes qui l'ont naturellement et d'autres qu'on peut manipuler par résonance de Feshbach, ben à ce moment-là, ce qui se passe dans les expériences, et il n'y a pas de modèle théorique pour empêcher ça à ma connaissance, eh bien, c'est que les atomes implosent et les éventuelles corrections de la du champ moyen ne sont pas suffisantes pour prendre le pas avant que la densité ne devienne trop grande et qu'on perde tous les atomes avec des collisions inélastiques. Donc, pour un condensat atomique usuel, simplement avec des interactions de contact, un gaz monoatomique, à ma connaissance, il n'y a pas de solution pour former un état liquide. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Bien, pour former un liquide quantique, donc, il faut avoir une énergie de champ moyen qui est légèrement négative. Je vous ai dit, c'est la pente négative quand je trace epsilon de rho en fonction de rho au départ. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit la plus petite possible. Il faut qu'elle soit négative, mais la plus petite possible pour que les corrections qui sont au-delà du champ moyen arrivent à faire le travail, arrivent à la compenser, cette énergie, et à faire un minimum d'énergie à une densité qui reste raisonnable. Donc il me faut aussi des corrections au champ moyen qui empêchent... Tiens, je vois qu'il me manque un ENT, là. Excusez-moi. Qui empêche l'implosion complète du gaz. Alors, première solution, une proposition de Dmitri Petrov, dont je ne savais pas qu'il serait là aujourd'hui, mais bonjour, bravo pour la proposition. Une proposition très ingénieuse d'Ima Petrov, avec des vérifications expérimentales dans deux groupes, qui étaient le groupe de Letizia Taruel et de Marco Fattori en 2018, qui est une proposition qui consiste à prendre un mélange de deux gaz quantiques, donc les bleus et les rouges ici, dans un régime tel que l'énergie de champ moyen, comme demandé, est très faiblement négative. Et le moyen d'arriver à ça, le moyen très, très rusé, c'est de se dire, prenons pour simplifier des densités égales, rho1 et rho2, il y a autant de rouge que de bleu sur ma figure. Supposons que les interactions entre bleus, G1-1, hein, les 1 seront les bleus, les 2 seront les rouges, les interactions entre deux atomes bleus est positive. D'accord ? Donc G1-1 est positif. G2-2, je le prends également positif. Je le prends pour simplifier égal à G1-1, donc j'appelle tout ça petit g. Donc les bleus se repoussent, entre guillemets, les rouges entre eux se repoussent, mais je vais prendre une interaction entre les bleus et les rouges, donc G1-2, qui là, lui, est... Enfin, G1-2 est négatif, donc des interactions attractives. Eh bien, si on prend ça, et si on prend G1-2 très légèrement supérieur... Enfin, j'ai mis à peu près égal ici, mais très légèrement supérieur à g, eh bien, la somme des interactions de champ moyen, 1-1, 2-2 et 1-2, va être très légèrement négative. Et si on est capable, avec une résonance de Feshbach, d'accorder ça juste précisément, eh bien, on peut vraiment se mettre dans le cas où il n'y a pas grand-chose qui fait imploser le gaz. Et à ce moment-là, les corrections au champ moyen, qui, elles, sont positives, et qui varient, comme je l'ai déjà dit, en rho puissance 3,5, eh bien, elles vont pouvoir faire leur travail, elles vont pouvoir faire une densité d'équilibre qui n'est pas trop grande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de collisions inélastiques entre atomes, et on peut comme ça stabiliser des gouttelettes. Je ne vais pas décrire ça plus en détail, parce que je l'ai déjà fait dans le cours de 2022, et puis là, il n'y a pas d'effet magnétique dans ce dispositif. Mais c'est une solution qui marche, et qui fait des belles gouttelettes sphériques. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est donc d'utiliser les interactions dipolaires pour faire à peu près la même chose. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, ce qu'il faut, c'est que les interactions de champ moyen soient négatives. Et on sait comment le faire avec nos interactions dipolaires. Ce qu'il faut, c'est se débrouiller pour fabriquer une gouttelette allongée, comme ceci. Et à ce moment-là, l'énergie de champ moyen, on l'a vu déjà plusieurs fois dans les cours qui précèdent, peut se mettre sous la forme 1,5 de G moins GDD. G, donc, ce sont, comme toujours, les interactions de contact ici. GDD, c'est lui. Et si je me mets dans une situation que j'ai appelée donc les interactions fortes avec GDD plus grand que G, eh bien ce terme G moins GDD est négatif ici. Donc là encore, ça fait bien le travail que je veux. j'ai aux petites densités quelque chose qui va tendre à faire à contracter mon gaz sur lui-même. C'est la stabilité que je mentionnais tout à l'heure. Et puis si on a une correction au champ moyen qui est en puissance 3,5, eh bien on aura ce dont on a besoin. Voilà. Donc voilà comment on va s'y prendre. Et comme vous le voyez, tout maintenant réside dans cette énergie en puissance 3,5, cette énergie au-delà du champ moyen, qui va nous permettre de stabiliser notre liquide. Bien, alors, cette énergie, donc, on l'appelle énergie de Li Wang-Yang, du nom des trois auteurs de l'article qui ont proposé ça. Li Wang et Yang ont publié leur article en 1957. C'est la même année, c'est l'année du prix Nobel de Li et Yang. Alors, Li et Yang sont donc deux des trois auteurs. Vous voyez, ils étaient très jeunes à l'époque. Ils travaillaient dans beaucoup de domaines. Leur prix Nobel n'est pas pour ces travaux de basse énergie, c'est pour leurs travaux pour prédire la violation de la parité en haute énergie, l'expérience qui avait été faite dans la foulée par Madame Vu. Et donc, ils ont eu, je crois que leur article sur la violation de la parité était en 56. En fin 56, début 57, Madame Vu a confirmé la violation de la parité et le prix Nobel est arrivé dans la même année. Mais cette même année, donc, ils sont aussi intéressés à des problèmes de basse température, de basse énergie, et ils ont calculé donc, cette énergie au-delà du champ moyen dans un fluide quantique, qui à l'époque, ce qu'ils avaient en tête, c'était l'hélium, hein, bien sûr, même si les méthodes ne sont pas directement applicables à l'hélium. Alors, c'est quoi l'énergie de Li Wang-Yang? C'est essentiellement une énergie de point zéro. Ce qu'on fait, donc, c'est qu'on fait une théorie quantique du champ de matière notre gaz de Bose en interaction, dans notre fluide de Bose en interaction. Quand on fait une théorie quantique, que ce soit de la matière, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou de la lumière, le but, c'est de mettre l'hamiltonien sous une forme qu'on peut qualifier de diagonale. Alors là, on fait une théorie quantique des champs, donc on a des opérateurs de création et d'annihilation, mais ce qu'on veut, c'est aboutir à une forme qui est du type, pour l'hamiltonien, une constante que je vais appeler au zéro, et puis une somme sur tous les modes possibles de ce fluide, enfin de ce champ, donc là je les appelle lambda, d'une amplitude E lambda, et puis A lambda croît A lambda plus 1,5, où A lambda détruit une particule ou une quasi-particule dans le mode lambda, et A lambda croît crée une particule ou une quasi-particule dans le mode lambda. Donc cet indice lambda, pour le champ électromagnétique, ça repère simplement les modes de photons, soit dans l'espace libre, soit dans une cavité. Et pour nous, ça va repérer les modes de Bogoliubov pour notre gaz de Bose, pourvu que l'approche de Bogoliubov soit valable, c'est-à-dire que le gaz soit en interaction relativement faible. Encore une fois, ça ne s'appliquerait pas tel quel à l'hélium liquide. Et si vous avez donc un hamiltonien que vous avez su mettre sous cette forme-là, eh bien, l'énergie de l'état fondamental, c'est l'énergie où il n'y a aucune excitation présente dans le système, eh bien, ça va être E0 plus 1,5 de la somme des E lambda. C'est une analogie directe, ce que je suis en train de dire, avec ce qu'on apprend, pas quand on fait une théorie des champs, mais quand on apprend les particules matérielles en physique quantique. Si vous prenez l'oscillateur harmonique, eh bien, l'hamiltonien d'un oscillateur harmonique de pulsation oméga, ça va s'écrire H bar oméga fois A croix A plus 1,5, où les opérateurs A croix, ça crée une excitation de l'oscillateur, et vous savez que le 1,5 de H bar oméga qui reste, eh bien, c'est l'énergie de point zéro de l'oscillateur, c'est simplement une conséquence de l'inégalité de Heisenberg, c'est le fait que je ne peux pas préparer ma particule dans l'oscillateur harmonique à la fois avec une impulsion nulle et une position zéro, parce que, à cause de l'inégalité de Heisenberg, et donc je dois payer un certain prix dans l'état fondamental, à la fois en énergie cinétique et en énergie potentielle de confinement, et ce 1,5 d'H bar oméga, c'est exactement ça. Donc finalement, ce que je suis en train de faire là, c'est faire passer ce qu'on sait sur l'oscillateur harmonique au niveau de la théorie des champs. Et cette somme des E lambda, là, eh bien, si vous prenez le champ électromagnétique, c'est l'effet Casimir, que je vais vous rappeler dans un instant, et pour nous, ce sera la correction de Li Wang-Yang. Alors l'effet Casimir, c'est quoi? Eh bien, l'effet Casimir, c'est exactement cette somme des E lambda qu'on calcule si on prend le champ électrique, non pas dans l'espace libre, mais le champ électromagnétique entre deux plaques conductrices non chargées. Et donc, on quantifie le champ entre ces deux plaques, on calcule l'énergie de point zéro du champ électromagnétique. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est que cette énergie dépend de la distance entre les plaques. Et c'est une énergie qui est attractive, c'est-à-dire que je diminue l'énergie si je rapproche mes plaques. Donc ça correspond à une force qui agit sur les plaques. Et cette force, elle est écrite là. En fait, vous pouvez la reconstruire par simple analyse dimensionnelle. Elle dépend de l'air des plaques. Donc, c'est une force par unité de surface. Grand F sur A, c'est une force par unité de surface. Ça fait tenir de la constante de Planck, la vitesse de la lumière. Et puis, donc, cette distance grand L entre les plaques. Donc, la force est en 1 sur L4. Voilà. Donc, nous, on ne va pas s'intéresser à la lumière. On va s'intéresser au gaz de Bose. Et donc, cette somme des E lambda, ici, sommée sur tous les modes qui sont les modes de Bogoliubov, va nous donner la correction dont on va avoir besoin. Alors, je donne juste quelques détails. Donc, j'ai mon Hamiltonien que je cherche à mettre sous cette forme-là. Pour Bogoliubov, c'est à peu près égal. Pour le mode, le champ électromagnétique, c'est égal, mais pour Bogoliubov, c'est à peu près égal. On néglige des termes supplémentaires dans la théorie. Le E0 ici, c'est simplement l'énergie de champ moyen, donc le 1,5 de Gero par particule. Si vous préférez, pour le système total, 1,5 de Gero fois le nombre de particules grand N. Pardon. Et les énergies EK, ici, eh bien, ça se déduit de la relation de Bogoliubov qu'on a vue la dernière fois. H-bar oméga, pour le mode K, c'est epsilon K, où epsilon K, c'est l'énergie cinétique d'une particule libre, H-bar 2K2 sur 2M, fois epsilon K plus 2 fois rho, la densité, fois V tilde de K, où V tilde de K, c'est la transformée de Fourier de mon potentiel. Donc ça peut être le potentiel de contact, mais ça peut aussi être le potentiel dipolaire, pris donc au vecteur d'onde K. Voilà. Et la transformée de Fourier, je la définis comme ceci. Alors, le E de K, E ronde de K qu'il faut mettre ici, c'est ce H bar oméga K qu'on a déduit ici, moyennant certaines corrections. Alors, je ne vais pas rentrer dans la raison pour laquelle il faut mettre ces corrections-là quand on fait la théorie du gaz de Bose par Bogoliubov. Là encore, je l'avais fait dans un cours, je l'avais fait dans le cours 2022 en détail. Je crois que j'avais consacré 2 séances entières à dériver complètement cette méthode de Bogoliubov. Donc, je vous renvoie à ce cours si vous voulez en savoir plus. Le point important, c'est donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'énergie de point zéro, le 1,5 de E ronde de K, qu'on peut calculer en passant à l'intégrale, hein, en remplaçant la somme discrète par une intégrale sur tous les nombres d'ondes K. Ça fait apparaître le volume, donc on a énergie par unité de volume en fait, tout comme la force de Casimir était une force par unité de surface, on a énergie qu'on va sortir par unité de volume. Et puis cette intégrale de K, croyez-moi, sur parole, l'intégrale est bien convergente, pourvu que V tilde de K soit bornée à l'infini, pourvu que V tilde de K ne diverge pas quand K tend vers l'infini, on a une intégrale qui est convergente, donc elle se calcule. Et le résultat est écrit ici. Voilà, au moins écrit ici pour l'interaction de contact. Donc, pour l'instant, je néglige le terme en GDD ici. Je me contente de prendre ce terme-ci. Donc là, c'est très simple. La transformée de Fourier de V tilde, c'est simplement une constante, c'est G. Donc, c'est borné à l'infini, il n'y a pas de problème. Et l'énergie donc, que je trouve de Bogoliubov, je peux la mettre sous la forme 1,5 de G rho n fois 1, ça c'est l'énergie de champ moyen, plus la correction trouvée par Li Wang-Yang, qui fait donc intervenir un infiniment petit, qui est donc sans dimension, hein, puisque je le compare à 1, qui est simplement la racine de rho à cube, produit densité fois la longueur de diffusion au cube, avec un préfacteur alpha, qui ne se devine pas, mais qui se calcule, qui vaut 128 sur 15 racines de pi. Voilà, ça c'est le résultat de l'intégrale qui était à la diapositive précédente. Alors cette correction de Li Wang-Yang, donc si j'effectue le produit, je vais avoir le alpha qui va être ici, j'ai le 1,5, ensuite j'ai G rho n fois racine de rho à cube, et ça on va le mettre sous la forme plus commode pour nous dans la suite, un 2/5, vous allez comprendre pourquoi je mets un 2/5 un petit peu plus tard, un coefficient G que donc j'appelle coefficient G de Li Wang-Yang, fois alors, la dépendance en densité, donc j'ai un rho qui était ici en facteur, et puis j'ai le racine de rho qui est là, donc c'est le rho puissance 3,5 dont je vous parlais depuis le début, fois grand N, puisque je fais une théorie pour N particules, donc j'ai le grand N qui est là, quand je parle, ça sera l'énergie à une particule, le grand N disparaîtra, bien sûr. Et ce coefficient G Li Wang-Yang, donc c'est simplement le coefficient alpha qui était écrit ici, avec la prise en compte du 2/5 que je dois mettre, donc ça fait un 32 sur 3 racines de pi, et puis G à puissance 3,5. Alors, le domaine de validité, comme j'ai dit, ça apparaît comme un développement en puissance, la théorie de Bogoliubov apparaît comme un développement en puissance de ce petit paramètre racine de rho à cube, donc il faut que racine de rho à cube soit petit devant 1. C'est là que l'hélium liquide n'est pas éligible à cette théorie. Parce que pour l'hélium liquide, ρ à cube est d'ordre 1, donc le petit paramètre n'est pas assez petit pour appliquer la théorie de Bogoliubov telle qu'elle à l'hélium liquide, même si c'est l'hélium liquide qui a motivé le développement de cette théorie. En revanche, pour les gaz, les atomes froids, il n'y a pas de problème. Et puis, une remarque qui va jouer un rôle important quand on va évaluer le domaine de validité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est revenir à l'intégrale sur les cas, ou la somme si vous préférez, sur les cas, et de se demander quels sont les modes qui contribuent à cette somme. Je vous ai dit, l'intégrale est convergente au très grand cas, donc ce n'est pas les cas très très grands qui contribuent, ce n'est pas non plus les cas tout petits. Les cas qui contribuent le plus, c'est les cas tels que l'énergie cinétique d'une particule, h bar 2 k2 sur 2m, est de l'ordre de l'énergie de champ moyen de cette même particule, de l'ordre de 0. Ce qui veut dire que k est de l'ordre de 1 sur xi, où xi est la longueur de relaxation que j'ai déjà introduite, c'est la longueur qui est associée directement aux interactions dans le problème, h bar sur racine de 2m 0. Et pour les gaz quantiques habituels, xi est de l'ordre d'une fraction de micromètre, disons entre 0,2 et 0,5 micromètre. Donc les cas qui sont là, les cas qui contribuent le plus, c'est des cas qui sont l'inverse de 0,2 à 0,5 micromètre. Alors, nous, on a des interactions dipolaires, et donc, question, comment est-ce que les interactions dipolaires modifient cette énergie de Li Wang-Yang? Donc, comme on l'a vu, ce que je veux calculer, c'est cette somme sur tous les EK. Chaque EK fait intervenir V tilde de K, la transformée de Fourier du potentiel pris pour le vecteur d'onde K. Et donc, pour ça, j'ai besoin de la transformée de Fourier du potentiel total, contact d'une part, et dipolaire d'autre part. Ça, on l'a regardé ensemble la dernière fois, donc j'ai la somme de mes deux termes, c'est les mêmes que ceux que j'ai écrits au tableau, j'espère que je n'ai pas fait de faute, oui, c'est bien ça. Et donc, le G delta de R, j'ai déjà dit que ça devient une constante G quand je prends un transformé de Fourier, et quand on prend un transformé de Fourier de ce terme en 1 sur R3 fois 1 moins 3 cos carré θ, je vous rappelle ce qu'on avait dit ensemble la dernière fois, on obtient un résultat qui est indépendant du module de K, c'est remarquable, mais qui est lui-même anisotrope. Je pars d'un potentiel qui, dans l'espace des positions, est anisotrope, et j'obtiens quelque chose qui, dans l'espace des impulsions, des vecteurs d'onde, est également anisotrope. Ça s'écrit simplement GDD fois 3 cos carré alpha moins 1, où alpha, c'est l'angle entre mon vecteur d'onde K et puis toujours la direction de polarisation de mes dipôles. Et ça, je vais donc l'écrire petit g, je vais mettre petit g en facteur, et donc 1 plus epsilon DD, c'est le rapport entre GDD et G, donc interaction dipolaire forte, epsilon dd est plus grand que 1, si elles sont faibles, epsilon dd est plus petit que 1, epsilon dd fois 3 cos carré alpha moins 1. Et le jeu maintenant, c'est simplement d'injecter ce V tilde de 2K ici dans la formule générale de Li Wang-Yang. Donc ça se fait, les premiers à l'avoir publié sont Lima et Pelster en 2012, et ce qu'on trouve, c'est donc que dans la somme qui donne l'énergie de point 0, et donc celle qui donnait alpha racine de rho à cube dans l'article de Li Wang-Yang de 1957, eh bien, ça devient la chose suivante, ça devient alpha racine de rho à cube fois une certaine fonction de epsilon et d, ça vient de ce crochet-là, c'est une certaine fonction de epsilon et d, que j'appelle Q5, je vais aller voir dans un instant pourquoi, qui est simplement une intégrale sur tous les angles. C'est normal que je vois apparaître une intégrale sur les angles. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'appeler alpha, mon angle ici, mais c'est pas grave. Une intégrale sur tous les angles, c'est parce que j'ai quelque chose d'anisotrope ici. Et ce que je vois ici, c'est simplement le crochet que j'avais là, à la puissance 5,5. Ça, c'est ce qui sort naturellement quand on fait les bons champs dans la variable dans l'intégrale. Fois sinus theta des états. Et donc, on l'appelle Q5, cette fonction, parce que c'est 5,5 ici. Donc, plus généralement, j'aurais un Qn ici, si cette chose-là était n,5. Voilà. Et donc, finalement, la recette est simple pour avoir la correction de Li Wang-Yang pour un gaz dipolaire. Il faut simplement prendre cette fonction Q5. Alors, un mot sur cette fonction Q5. Donc, je l'ai retracée ici. Donc, j'ai tracé pour epsilon dd variant entre 0 et 1. Et vous avez comme ça la fonction bleue, donc qui part de 1 quand il n'y a pas d'interaction dipolaire, quand epsilon dd égale 0, et puis qui atteint une valeur de l'ordre de 2,7, je crois, quand epsilon dd vaut 1. Et puis, je ne l'ai pas tracé au-delà de 1, ce qui est bien dommage, parce que ce qu'on veut, c'est faire des GDD, des interactions dipôle-dipôle plus grandes que l'interaction de contact, donc on a envie d'aller dans ce domaine-là. Mais malheureusement, quand on regarde l'intégrale ici, enfin l'intégrant plutôt, eh bien vous voyez que dès que epsilon dd dépasse 1, en fait, pour certains angles θ, je vais avoir à prendre la puissance 5,5 d'un nombre négatif, et donc je récupère une fonction qui n'est plus réelle, mais qui a une partie imaginaire. Alors ça, dans la littérature, finalement, ça n'embête pas trop les gens. Ce qu'ils font, c'est que soit ils tronquent l'intégrale aux valeurs de θ telles que ça ne devient pas négatif, l'intégrant. Bon. L'autre solution, qui est la plus courante, c'est de se dire, bon, ben, qu'à cela ne tienne, comme on veut les valeurs de GD au-delà de 1, eh bien, on remplace... on veut les valeurs de Q5 quand εd dépasse 1, on remplace Q5 par son développement tronqué à l'ordre 2, c'est-à-dire un développement qui est valable aux petites valeurs de εd, et puis on utilise ce développement au-delà de 1, donc on fait ça, voilà, et on continue comme ça, et on va utiliser pour Q5 cette valeur-là, même si εd est plus grand, est supérieur ou égal à 1. Voilà, et ça... Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça dans tous les articles que les gens font sur le domaine. Donc, quand on veut utiliser ce type d'approche, hein, après on peut faire des approches exactes de type Monte Carlo quantique, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais si on veut utiliser ce type d'approche, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on extrapole la fonction Q5 en utilisant son développement qui est écrit ici. Voilà. Bien. Eh bien, là maintenant, on a tout ce qu'il faut pour aborder les choses sérieuses, c'est-à-dire... trouver l'état d'équilibre d'une gouttelette quantique, le modéliser le mieux possible, et puis donc voir après comment est-ce que ça se confronte aux résultats expérimentaux. Alors ça, maintenant, je vais passer au tableau. Je récapitule où on en est. On a donc cette correction Li Wang-Yang qui est en 2 cinquièmes du coefficient petit g Li Wang-Yang que je vous ai rappelé ici, qui maintenant fait intervenir la fonction Q5, hein, puisque je multiplie tous les résultats obtenus par Li Wang-Yang par cette fonction. Rho puissance 3,5 fois le nombre de particules, puisque là, c'est l'énergie totale que j'ai écrite ici. Donc, je vais passer au tableau, et ce qui m'intéresse, pour commencer, c'est d'établir ce que j'ai écrit ici, la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevski. Prenant en compte, donc, cette correction de Li Wang-Yang. Alors, la première chose à voir, c'est comment est-ce que je vais transposer le résultat de Li Wang-Yang, qui est un résultat qui est obtenu pour un gaz uniforme, densité uniforme dans une boîte, à mes gouttelettes, ou plus généralement mes gaz ou mes fluides dipolaires, qui ont une densité qui varie dans l'espace. Donc on va faire ce qu'on appelle une approximation de densité locale. Et pour faire cette approximation de densité locale, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va repartir de ce delta E de Li Wang-Yang, donc ce 2 cinquièmes de J Hy rho puissance 3,5 grand N. Et grand N, c'est lui-même, donc, pour un gaz uniforme, rho fois le volume. Donc cette chose-là, je peux l'écrire 2 cinquièmes de G Hy, rho puissance 5,5 fois mon volume. Si maintenant j'ai une densité qui n'est pas homogène, qui dépend du point X, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire que delta E Li Wang-Yang, ça va être 2 cinquièmes de la somme de ce rho puissance 5,5 sur tous les petits éléments de volume, étant entendu que rho puissance 5,5 ne prendra pas exactement la même valeur sur tous les éléments. Donc on garde le G Li Wang-Yang qui lui n'a pas changé, et on remplace ce rho puissance 5,5 fois le volume par une intégrale de rho puissance 5,5 de R fois D3R. Voilà, alors ça, c'est valable si ça a un sens de dire que ce qui se passe sur un élément de volume D3R peut être rapproché par le résultat uniforme. Donc il faut que ma densité ne varie pas trop vite, pour que la théorie uniforme puisse s'appliquer. Je reviendrai là-dessus, sur cette hypothèse, tout à l'heure, mais je vous rappelle que j'avais dit que les moments K qui contribuaient le plus à mon intégrale, c'était les K de l'ordre de 1 sur Xi, la longueur de relaxation. Donc, pour que cette chose-là soit valable, il faut que rho de R ne varie pas trop à l'échelle de la longueur de relaxation. À ce moment-là, je serai en mesure d'espérer que ce que j'écris n'est pas trop mauvais. Voilà, donc ça, c'est la manière dont je vais m'y prendre. Et ensuite, ben, je dois écrire mon énergie totale. Donc l'énergie totale, quelle est-elle? Eh bien, j'ai l'énergie cinétique, j'ai mon énergie de champ moyen lié au contact. J'ai mon énergie dipôle-dipôle, toujours décrite en champ moyen, et puis donc ce delta E, Li Wang-Yang. Voilà, et je vais écrire maintenant la fonction de l'énergie qui contient ces quatre termes. Alors, je vérifie que je n'ai pas rien oublié de mettre avant ça. Non, tout va bien. D'accord. Donc, mon énergie, donc, eh bien, on y va, on écrit tout. Donc, l'énergie cinétique, j'ai grand N particules avec une fonction d'onde psi, donc j'ai grand N fois H bar 2 sur 2M, l'intégrale de gradient psi en modulo carré des 3R. Ensuite, j'ai l'énergie de contact, donc ce qui vient du G delta de R, et ça s'écrit 1 demi de G fois l'intégrale de ma densité rho carré de R des 3R. Rho de R, je vous rappelle, c'est grand N, le nombre d'atomes, fois module de psi au carré. Donc là, ce que j'écris ici, c'est quelque chose qui varie comme N carré, c'est bien l'énergie d'interaction. Il faut que je fasse attention de ne pas dépasser ici. J'espère que je vais avoir de la place. Ensuite, j'ai mon énergie dipôle-dipôle. Donc l'énergie dipôle-dipôle, je l'avais mise sous la forme de... Alors, je ne me souviens plus où est-ce que je mets le coefficient 1,5. Je ne me souviens plus si je le mets là ou si je le mets après. Non, je le mets là. 1,5 de l'intégrale de rho de R fois le potentiel dipôle-dipôle phi dd de R des 3R et phi dd de R c'est donc l'intégrale de VDD de R moins R prime, rho de R prime, des 3R prime. Ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble dès les premiers cours. Et puis ensuite, eh bien, j'ai l'énergie de Li Wang-Yang que je vais prendre texto, hein, elle est ici, donc plus 2 cinquièmes, donc je vais mettre ici, plus 2 cinquièmes de G Li Wang-Yang, l'intégrale de rho puissance 5 demi de R fois des 3R. Voilà, donc je vérifie là encore que je n'ai rien oublié d'important. Non, tout va bien. Oui, je peux redéfinir rho de R, je l'ai dit, mais je peux le réécrire. Rho de R, donc c'est grand N fois psi de R en modulo carré. Donc le premier terme est en N, et ce terme-ci est en N carré, ce terme-ci est en N carré, puisque j'ai rho fois phi dd qui est lui-même en puissance de rho, et puis celui-là varie encore plus vite avec grand N. Et donc ça c'est une énergie, donc c'est la fonctionnelle d'énergie, et pour trouver donc la fonction d'onde psi de R solution de ça, eh bien on fait une méthode variationnelle, on dit qu'on fait une petite variation de psi ou de psi étoile là-dedans, il faut que l'énergie soit stationnaire, et c'est comme ça qu'on dérive l'équation de Gross-Pitalevski. Donc cette fois-ci on l'appelle équation de Gross-Pitalevski étendu. Le étendu veut dire qu'on lui a rajouté des corrections au-delà du champ moyen, cette correction en 2 cinquièmes. Et donc, quand on fait la variation, hein, je vous rappelle qu'on peut traiter finalement indépendamment psi et psi étoile, ou indépendamment la partie réelle et la partie imaginaire de psi. Donc, on fait une variation de psi étoile en gardant psi constant, et on arrive comme ça à une équation. Je ne le refais pas, parce que je l'avais fait, j'avais expliqué ça là, dans le premier cours. On arrive à une équation qui fait intervenir à gauche le potentiel chimique, mu c, fois psi, égale à droite ben, le terme d'énergie cinétique, moins h bar carré sur 2m, laplacien psi, plus un terme, alors je vais tout mettre dans le crochet pour simplifier, donc ici je vais trouver g fois rho de r, ce terme-là va me donner phi dd de r, et puis ce terme-ci, j'ai un puissance 5,5 ici, donc quand je vais faire la variation, je vais sortir un 5,5 qui va s'éliminer avec ce 2 cinquième, c'était la raison d'être du 2 cinquième initial, et donc je trouve ici plus G de Li Wang-Yang, rho puissance 3,5 de R, je ferme un crochet, psi de R. Voilà, et ça c'est donc cette équation de Gross-Pitalevski étendue, qui est l'équation qui, dans le cadre de ce modèle, il faut résoudre si on veut avoir la forme d'équilibre de la gouttelette, en admettant que cette gouttelette se forme. Voilà, donc voilà à quoi on doit résoudre, et là évidemment c'est une équation qu'on ne peut résoudre que sur ordinateur, si on veut le faire de manière rigoureuse. Alors là, moi je vais faire des choses qui vont être des choses approchées, parce que ce que j'aimerais quand même, c'est vous donner assez simplement comment est-ce que la densité de la gouttelette qu'on va trouver varie avec les paramètres principaux du problème. Donc je vais faire un traitement avec des lois d'échelle, étant entendu qu'ensuite on pourra comparer ce qu'on va faire analytiquement, si je puis dire, avec le résultat numérique de la résolution de cette équation. Donc là je passe au dernier point, écrit ici, la densité d'une gouttelette. Donc je reprends les énergies en présence. Hein, on a quatre énergies en présence ici, et si vous vous posez la question, qu'est-ce que ces énergies essaient de faire? Est-ce qu'elles essaient d'augmenter le volume de la gouttelette ou est-ce qu'au contraire elles essaient de le diminuer? Eh bien, on voit tout de suite qu'il y en a trois qui travaillent à augmenter le volume. L'énergie cinétique tend à augmenter le volume. Ça, c'est naturel. Hein. On paye toujours un prix à essayer de confiner des particules en physique quantique. Plus le volume qu'on donne aux particules est grand, moins l'énergie cinétique peut être grande. Enfin, plus elle peut être faible. Excusez-moi. Ensuite, le terme de contact, eh bien, lui aussi, il tend à augmenter le volume. Pourvu que je prenne une longueur de diffusion petit a positive, le terme de contact tend à augmenter le volume. Et enfin, le terme de Li Wang-Yang, lui aussi, avec son rho puissance 3,5, tend à augmenter le volume. Donc ces trois termes-là tendent à augmenter le volume. Il me reste l'énergie dipôle-dipôle qui, si je prends une gouttelette de forme allongée, elle, au contraire, tend à diminuer le volume. Le volume, si allongé. C'est-à-dire que si je prends une gouttelette de cette forme-là, avec mes dipôles qui sont donc alignés comme ceci, eh bien là, je sais que les interactions sont attractives, donc cette énergie dipôle-dipôle tend à diminuer le volume. Bien, alors, essayons de voir comment est-ce qu'on met tout ça ensemble, en supposant donc que j'ai une gouttelette allongée. Hein. Donc, comme je disais, je vais raisonner ici par des lois d'échelle. Hein. Je vais supposer que j'ai une gouttelette de densité rho, uniforme, et je vais me placer donc à l'intérieur de la gouttelette, et je vais regarder comment ces différents termes contribuent et se compensent entre eux pour former une densité d'équilibre. Donc, ma gouttelette allongée, je vais raisonner sur l'énergie par particule, c'est plus simple. Donc, j'appelle epsilon, c'est E sur N, l'énergie par particule. L'énergie cinétique, je vais me placer dans une limite de grand nombre d'atomes, et l'énergie cinétique, je peux peu la négliger. Je vous disais que ce terme-ci est en N, alors que tous les autres sont en N carré, voire N puissance 5,5. Donc, l'énergie cinétique, au moins pour l'instant, je vais la négliger. Vous allez voir qu'elle va réapparaître tout à l'heure, mais pour l'instant, je la prends négligeable. L'énergie de contact, epsilon contact, eh bien, elle, c'est 1,5 de G rho, si je prends par particule, si je divise par le grand N qu'on avait tout à l'heure. L'énergie de Li Wang-Yang, je la connais. C'est donc ce 2/5 de G J'irais rho puissance 5,5. Et puis j'ai mon énergie dipolaire, epsilon dd, que j'ai déjà écrite tout à l'heure, c'est 1,5, moins 1,5 pardon, de g dd fois rho. Et je mets ce moins 1,5 parce que j'ai fait l'hypothèse que ma gouttelette était infiniment allongée, donc je me mets dans la situation où j'ai la plus favorable pour former un état liquide. Et donc, on se retrouve avec tout ça. On a une énergie epsilon qui a donc exactement la bonne structure, c'est-à-dire que je peux l'écrire sous la forme moins 1,5 de GDD moins G. Je somme la terme de contact et le terme dipolaire en sortant sous cette bonne forme rho plus 2/5 de G, soit rho puissance 5,5. Et cette quantité-là, je vérifie que j'ai bien tout ce que je veux, oui, cette quantité-là, eh bien, elle a la bonne allure, hein, c'est-à-dire que si je me place dans le cas où GDD est plus grand que G, cas d'interaction dipolaire forte, eh bien, je vais démarrer avec une pente négative, et puis quand rho va devenir plus grand, c'est rho puissance 3,5 là, 3,5, oh là là, 3,5. J'espère. Ah oui, c'est faux partout, oh là là. Voilà, 3,5 ici aussi. C'est bien 5,5 Ici, c'est bien 5,5, mais quand je fais la différenciation, je sors 3,5. Là, pardon. Rho puissance 3,5. Donc ça part comme ça, et puis après, eh bien, ça monte comme ceci. Et donc le minimum, il est atteint quand d epsilon sur d rho égale 0, c'est-à-dire quand, si je différencie ça, 1/2 de gdd moins g fois rho est égal, alors si je différencie ça, je dérive par rapport à rho, j'ai un 2/5 fois 3/2, donc ça va me faire un 3/5 de g choy fois rho, là il n'y a plus de rho, décidément, rho puissance 1/2, et donc j'obtiens, si je mets tout ensemble, rho égale, donc gdd moins g sur g Li Wang Yang, j'ai un coefficient 5 sixième qui apparaît, et j'élève tout ça au carré. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat qui me donne la densité d'une gouttelette. Donc vous voyez, c'est la densité de la gouttelette, c'est à peu près égal, hein, bien sûr, parce que j'ai travaillé avec des lois d'échelle, mais ça me dit que la densité de la gouttelette fait intervenir directement cette différence gdd moins g, et puis le diviser par ce coefficient au-delà du champ moyen. Et quand on compare ça à des résultats numériques, c'est-à-dire un résultat numérique, c'est essayer d'aller voir ce que donne l'intégration de cette équation-là, et bien ça marche bien, même assez quantitativement. Ici, vous avez un résultat numérique que j'ai sorti dans l'article de Butcher et al., qui est fait pour l'atome de dysprosium, 164. Donc ils se sont mis dans le cas où la longueur diffusion A vaut 70 fois rayon de bord à 0, ADD vaut 130 fois à 0, donc il y a presque un facteur 2 entre ADD et A, hein, donc GDD est égal à 2 fois G, donc on est bien dans le cas GDD plus grand que G que je signalais ici. Et quand on met de plus en plus d'atomes, alors ça c'est au tout petit nombre d'atomes, donc là on n'est pas dans le régime de liquide, mais quand on met de plus en plus d'atomes, eh bien vous voyez que le profil de densité le long de l'axe de la gouttelette, ce que je trace ici c'est le long de l'axe Z, donc c'est un profil de densité en partant du centre ici pour aller jusque sur le bord, eh bien on obtient une densité qui est constante, et le fait de mettre plus d'atomes, ça va augmenter simplement la taille de la gouttelette, mais la densité centrale, elle, va rester la même jusqu'à ce qu'on atteigne le bord, et puis là la densité chute rapidement. Voilà. Un mot sur les densités auxquelles on arrive. Si vous faites l'application numérique qui est ici, et que vous prenez GDD qui est, disons, 2 fois G, donc quelque chose d'assez significatif au numérateur, eh bien on obtient des densités qui sont grandes. Hein. Les densités qu'on obtient sont de l'ordre de, là c'était 8 10 puissance 21, donc de l'ordre de 10 puissance 22 atomes par mètre cube, ou si vous préférez 10 puissance 16 atomes par centimètre cube, ce qui veut dire que ça correspond à des distances entre atomes voisins au sein de la gouttelette de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Et ça, c'est beaucoup. C'est des densités qui sont typiquement 10 fois à 100 fois plus grandes que les densités usuelles des gaz. C'est normal, hein, on forme un liquide, donc ça doit être plus dense. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on a quand même des pertes importantes dans ces gouttelettes. Vous allez le voir un petit peu plus tard. C'est-à-dire que les densités sont tellement, enfin, les atomes sont tellement proches les uns des autres qu'il peut y avoir des collisions à trois corps où deux des atomes forment un dimère fortement lié. Le troisième corps emporte l'énergie libérée par la formation du dimère et les trois atomes sont perdus de la gouttelette. Et ça se produit à un taux relativement élevé, quelques dizaines de millisecondes, disons, vous verrez des nombres plus précis dans un instant. Ça se produit à des taux relativement élevés du fait de cette grande densité qu'on obtient à l'équilibre. Alors maintenant, j'aimerais, là je vais revenir au tableau, essayer de préciser quelle est la forme de la gouttelette. Si on réfléchit bien à ce que j'ai dit, finalement, il y a une sorte de contradiction dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Rassurez-vous, il n'y avait rien de faux, mais il faut aller un petit peu plus loin si on veut être bien correct. Je vous ai dit, je prends une gouttelette infiniment allongée, c'est-à-dire que j'ai pris une taille ici, selon une taille radiale, dans le plan XY, qui est très très petite. Mais en même temps, je vous ai dit, l'énergie cinétique est négligeable. Et c'est là qu'est la contradiction, c'est-à-dire que si je prends une taille qui est infiniment petite, l'énergie cinétique associée va être très grande, donc je n'aurai pas le droit de la négliger. Donc en fait, la taille de la gouttelette, le facteur de forme de la gouttelette, le rapport entre la taille transverse et la taille longitudinale, doit faire d'une certaine manière intervenir l'énergie cinétique pour faire en sorte que je n'obtiens pas un fil infiniment étroit, mais quelque chose qui a une extension fini dans le plan XY. Ça ne va pas remettre en cause la forme générale, ma gouttelette va rester allongée, mais en tout état de cause, il faut que j'ai quelque chose qui me limite ma taille transverse, que je n'ai pas une implosion transverse ici. Donc ça, on va regarder comment le faire ensemble, mais je vais commencer par dire quelque chose sur ces diapositives-là. Donc, si je reviens à ce qu'on avait vu, je crois que c'était au cours 2, les énergies de champ moyen pour une gouttelette infiniment allongée, comme ça, et pour une gouttelette infiniment aplatie. Donc pour la gouttelette infiniment allongée, je vous dis, l'énergie de champ moyen, c'est 1,5 de rho g moins gdd. Hein, et c'est ce que j'ai écrit ici encore. Voilà, j'avais écrit moins 1,5 de gdd moins g pour faire apparaître quelque chose de positif, mais c'est la même chose. Si on va vers un système aplati, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que le moins gdd qui était ici devenait un plus 2 fois gdd. C'est juste une conséquence du 1 moins 3 cos carré θ qui vaut 1 dans un cas et puis moins 2 dans l'autre. Hein, c'est rien de plus que ça. Et donc, quand je quitte le régime d'une gouttelette infiniment allongée, pour quand même prendre en compte la taille transverse ici, ce que je dois faire, c'est ajouter un petit coefficient correctif à ce qui est là, qui sera un précurseur de la transition vers G plus 2 fois GDD. Donc pour ça, il faut revenir à la variation de l'énergie avec les rayons R' PRZ. Et la première correction qui apparaît, donc là, il faut utiliser pour ça les formules que j'avais établies dans le cours 2. Eh bien, cette première correction a l'allure suivante. C'est du r perp carré sur rz carré fois rho fois gdd, puisque c'est ce terme-ci que je suis en train de corriger. Et puis un coefficient gamma qui est d'ordre 1. Alors, je triche un petit peu en disant qu'il est d'ordre 1 parce que c'est un coefficient qui lui-même contient les logs des rayons. Donc, il est un petit peu plus compliqué quand on veut vraiment le calculer. Mais bon, comme vous savez, un log, ça varie toujours très lentement, donc on va le prendre d'ordre 1, et puis on va négliger sa variation avec les rayons. Dans les notes, j'ai essayé d'être un petit peu plus précis, mais bon, ça ne change vraiment pas grand-chose. Voilà, donc mon énergie de champ moyen, si je veux aller au-delà de ce que j'ai écrit pour l'instant, si je veux déterminer les rayons de ma gouttelette, il faut que je rajoute ce terme-ci, qui est une petite correction, hein, parce que R-perp est très petit devant RZ, et donc cette chose-là est petite devant ce qui est écrit ici. Donc, je vais revenir au tableau, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est donc de dire des choses sur la forme de la gouttelette, c'est ce rayon. Ah, j'aurais pas dû effacer ma densité, tant pis, je pourrais toujours la réécrire. Alors, je vous ai dit que l'énergie cinétique était négligeable, mais ce que je vous dis maintenant, c'est que, bon, elle n'est pas complètement négligeable, il faut la prendre en compte, parce que finalement, c'est elle qui empêche la gouttelette d'atteindre un rayon R perp complète égale à 0, donc je remets mon énergie cinétique et donc je la mets sous la forme H bar 2 sur M fois R perp carré. Et puis je rajoute à mon epsilon dd cette correction qui est écrite ici, plus gamma fois donc rho fois gdd fois R perp carré, R perp sur RZ au carré, ou R perp carré sur RZ carré. Écrire comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant reste complètement valable, c'est-à-dire que à l'ordre 0, ce qu'il faut faire, c'est minimiser les termes qui sont écrits en blanc ici, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a conduit à la valeur de la densité, mais ensuite, le terme correctif, eh bien, ça va consister à minimiser cette chose-là pour en déduire, connaissant le rho que j'ai déduit de ça, pour en déduire ce que valent R perp et RZ. Alors, donc ce que je dois minimiser, je vais revenir avec de la craie blanche, ce qu'on doit minimiser, c'est donc cette fonction H bar 2 sur M fois R perp carré, plus gamma rho GDD R perp carré, sur RZ carré. Alors, moi, je veux minimiser par rapport à R perp, mais il y a aussi du RZ qui intervient ici, mais ça, c'est pas compliqué, parce que je sais que ce que j'ai, c'est que j'ai une densité rho qui est égale au nombre d'atomes divisé par le volume qui est fixé. Donc, mon volume, c'est N fois rho, et le volume, par ailleurs, c'est R perp carré fois RZ. Il peut y avoir des pi et des choses comme ça, mais là encore, je suis en train de faire des lois d'échelle, égale n rho. Donc, j'en déduis que le RZ dont je vais avoir besoin ici, ça va être n rho sur R perp carré. Donc, ma fonction à minimiser, si je la réécris, c'est h bar 2 sur m R perp carré plus gamma rho GDD, R perp carré, ça c'est mon numérateur, et puis j'ai 1 sur RZ carré, donc qui va me faire ici du RZ puissance 4, divisé par N carré rho carré. Non, c'est faux ? C'est bon ? R perp. Ah, merci. Voilà. Bon, oui. Et donc, ce que j'ai à minimiser, c'est quelque chose. J'ai oublié les h-bar, les m et tout ça. C'est quelque chose qui est en 1 sur r perp carré, ici, plus du r perp puissance 6, 2 plus 4, divisé par n carré. Voilà. Alors, quand on doit minimiser comme ça une somme de 2 puissances d'une variable, en l'occurrence la variable r perp, on sait que le minimiseur est obtenu quand les deux termes sont du même ordre. Là encore, il va y avoir des quotients numériques, mais que je peux oublier. Donc le minimiseur, ce sera R perp. Si je fais que ça égale ça, ça fait R perp puissance 8 proportionnel à n carré. Ou si vous préférez, je peux faire de la place ici. Ou si vous préférez, R perp. Proportionnel à n puissance 1 quart. Voilà. Et si maintenant je reviens à Rz, eh bien Rz, il est en n, nombre d'atomes divisé par R perp carré, donc n divisé par racine de n, donc Rz, lui, est proportionnel à n puissance 1/2. Voilà. Et par ailleurs, donc je pourrais écrire ma densité d'équilibre, hein, rho, on avait trouvé que c'était du GDD moins G sur G Li Wang Yang au carré. Voilà, donc ça caractérise complètement la gouttelette, c'est-à-dire qu'on a à la fois sa densité et sa taille, et ces variations de R perp et de Rz sont intéressantes. Hein. Ce que vous voyez, c'est que quand j'augmente le nombre de particules, eh bien, à la fois la taille transverse et la taille longitudinale augmentent, mais la taille longitudinale augmente beaucoup plus vite comme n puissance 1/2, que la taille transverse en n puissance 1 quart. Donc, au grand nombre d'atomes, ma gouttelette va avoir un aspect de plus en plus effilé, mais il ne faut pas se méprendre, la taille transverse augmente malgré tout, c'est juste qu'elle augmente moins vite que la taille longitudinale. Alors là encore, ces lois sont bien vérifiées, au moins au grand nombre d'atomes. Ici, je vous donne un résultat numérique obtenu par Bailly, Wilson et Blackie, où vous avez tracé en fonction du nombre d'atomes, alors c'est nombre d'atomes moins nombre d'atomes critiques, je vais revenir sur le nombre d'atomes critiques dans un instant, et puis ici vous avez la taille, et donc ce qu'ils appellent sigma rho, ici c'est mon R perp, qui varie bien comme n puissance 1 quart, et sigma z qui varie comme n puissance 1/2. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ces auteurs et d'autres présentent ces lois comme étant des résultats purement numériques. C'est-à-dire que le raisonnement que j'ai fait au tableau là, qui n'est pas très compliqué, hein, je ne prétends pas avoir fait quelque chose de grandiose, le raisonnement que j'ai fait là, je ne l'ai jamais vu écrit nulle part, c'est-à-dire ce qui conduit au R-perf, au n puissance 1 quart et au n puissance 1/2. Ça sort numériquement, heureusement, sinon ce serait faux, mais je ne l'ai pas vu motivé par des lois d'échelle comme ça. Donc si quelqu'un connaît une référence où c'est fait, je serais ravi de la citer dans les notes, mais je n'en ai pas trouvé. Et donc les tailles, quelles sont-elles quand on fait une application numérique? Donc, je vous ai déjà donné la densité tout à l'heure. Si on regarde les tailles, ben, si vous prenez 50 000 atomes, qui correspond donc à ce nombre-là pour n puissance 1 quart égale 15, eh bien, vous trouvez que la taille longitudinale, la longueur de ma gouttelette, c'est de l'ordre de la dizaine de microns, alors que la taille transverse, elle est 30 fois plus petite, donc ça vaut 0,4 ou 0,5 microns. Et souvenez-vous de ce 0,4 ou 0,5 microns, c'est petit, ça reste l'ordre de la longueur de relaxation dont je parlais tout à l'heure, donc on va revenir là-dessus dans un instant. Avant ça, un mot sur ce que vous avez vu apparaître, qui est un nombre minimal d'atomes. Si je diminue mon nombre d'atomes, si je quitte le régime des grands N que j'ai utilisé au tableau pour aller vers des plus petits N, eh bien, ce qu'on voit, c'est que R perp va diminuer, Rz va diminuer plus vite. Donc, je vais quitter le domaine d'une gouttelette infiniment allongée, enfin très allongée, pour me rapprocher d'une gouttelette qui va être plus ou moins sphérique. Mais si j'ai une gouttelette sphérique, ben, là, je sais que mes interactions dipolaires ne jouent plus aucun rôle, et à ce moment-là, ben, parce que la moyenne de 1 moins 3 cos carré θ vaut 0, et à ce moment-là, ben, il n'y a plus rien pour maintenir mon système ensemble, hein, si je quitte le régime allongé. Donc, il y a un nombre d'atomes minimal pour que la gouttelette soit autoliée. Si je ne mets pas assez d'atomes, eh bien, la forme allongée ne va pas se produire, et finalement, ces trois termes-là vont l'emporter complètement sur celui-ci, et je n'aurai pas d'état autolié. Donc ici vous avez une courbe qui donc résulte de l'intégration de l'équation de Gross-Pitayski qui est encadrée en bas, où vous prenez G sur GDD, donc il faut toujours le prendre plus petit qu'un, G sur GDD, il faut toujours prendre GDD plus grand que G pour que ça marche, et si vous prenez par exemple GDD égale 1,1G, c'est-à-dire G sur GDD à peu près égal à 0,9, eh bien, vous mettez ici, vous voyez qu'il faut aller vers des nombres d'atomes considérables, de l'ordre de 100 000, donc ça c'est très grand. Si vous prenez au contraire GDD égale 1,5G, quelque part par ici, eh bien là, vous trouvez que le nombre d'atomes critiques que vous lisez ici, c'est en log, hein, va être beaucoup plus petit, et va de l'ordre de quelques milliers seulement. Donc en pratique, si on veut fabriquer ces édifices autoliés, ces gouttelettes quantiques, en ne mettant pas en jeu trop d'atomes, eh bien, il faut prendre un GDD significativement plus grand que G, de typiquement 1,5 à 2, pour arriver à le faire simplement. Alors, un mot sur ces limites de l'équation de Gross-Pitayski étendue. Hein, j'ai utilisé cette équation là qui est écrite en bas, avec les différents termes. Et cette équation, elle a quand même des limites, c'est important de bien les avoir en tête. La première chose, c'est qu'on néglige les effets de déplétion quantique dans cette approche. Et ça, c'est quand même un peu gênant. Quand on fait la théorie de Bogoliubov et qu'on calcule l'énergie de Li Wang-Yang, c'est une partie du résultat important. L'autre partie, c'est le fait que le condensat ne contient plus toutes les particules, mais il y a une partie des particules qui sont en dehors du condensat, qui ne sont pas décrites par la fonction psi de R macroscopique. Et là, on ne les a pas du tout mises. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui nous arrangeait, c'est-à-dire l'énergie de Li Wang-Yang, qu'on a injecté dans une équation pour psi, la fonction d'onde macroscopique, mais on a négligé qu'il y avait des particules qui n'étaient plus décrites par ce psi-là. Et en tout état de cause, ces particules peuvent jouer un rôle dans l'état d'équilibre de la gouttelette ou la densité d'équilibre. Une deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est que quand on fait le calcul de Li Wang-Yang, les modes dominants sont de l'ordre de 1 sur xi. La taille de la gouttelette, xi c'est de l'ordre d'une fraction de micron, et les tailles qu'on a trouvées pour les gouttelettes avec des nombres d'atomes de l'ordre de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers sont également de l'ordre de xi. Utiliser la progression de densité locale dans ces conditions-là, c'est assez osé. Parce que, on a supposé que normalement la densité doit varier très lentement à cette échelle de xi. Et il se trouve que là, c'est la taille de la gouttelette. Donc la densité passe de 0 à la valeur centrale sur cette échelle de longueur. Donc ce n'est pas garanti que la progression de densité locale marche bien. Et puis enfin, il y a ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que le calcul de G Li Wang-Yang contient la fonction Q5. Cette fonction Q5 n'est plus définie dans le domaine intéressant, à savoir GDD plus grand que G. On lui substitue sa continuation analytique avec le développement à l'ordre 2. Mais là aussi, ce n'est pas très bien contrôlé. Donc, cette équation-là, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elle est commode, mais elle n'a pas le degré de validité qu'elle a quand on s'intéresse à des condensats traditionnels, régis par l'interaction de contact et en absence de phénomènes au-delà du champ moyen. Alors, il y a eu des tentatives pour comparer la prédiction de cette équation Gross-Pitayski étendue à des méthodes plus sophistiquées, a priori exactes, qui sont des méthodes de calcul de Monte-Carlo quantique. Alors, ces méthodes ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Là, je vais vous décrire un résultat obtenu par Saito en 2016. Une des difficultés, c'est la divergence en 1 sur R3, liée au potentiel dipôle-dipôle. Il faut mettre en place une coupure en position pour éviter cette divergence, et vous allez voir que les résultats dépendent de la coupure. Donc voilà un résultat, donc c'est 1000 atomes de dysprosium, donc formation d'une gouttelette très allongée, et vous avez les points, les ronds là, ici, ce sont les résultats de l'équation de Gross-Pitayski étendue, et les lignes continues sont différents résultats obtenus avec la méthode Monte-Carlo quantique. Alors c'est dommage de dire qu'il y a différents résultats, puisque normalement c'est une méthode exacte qui doit fournir qu'un seul résultat, mais le point c'est que les résultats dépendent de deux paramètres. D'une part, la valeur de ce rayon de coupure ici, mis en place pour éviter la divergence en 1 sur R3, qui varie ici entre 0,15 microns et 0,25 microns, et ben, les courbes ne superposent pas. Et puis l'autre paramètre, c'est inhérent à la méthode de Monte Carlo quantique, c'est grand M, ce paramètre grand M, qui est le nombre de tranches. Alors pour vous expliquer ce que c'est qu'une tranche, il faut que je fasse un tout petit aparté sur ce qu'est la méthode de Monte Carlo quantique par intégrale de chemin, qui est celle qui était utilisée par Saito, ici. Ce qu'on veut évaluer dans cette méthode, c'est essentiellement la probabilité de trouver les grands N particules au point R1, R2, Rn, pour un système à température T fini. Donc pour ça, il faut évaluer l'élément de matrice de puissance moins bêta H, où bêta c'est 1 sur KT, H c'est l'hamiltonien, entre R, qui est simplement le N-uplé R1, R2, Rn, et puis R à droite, mais moyennant une permutation possible des N particules, puisque j'ai affaire à des bosons. Et plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est faire la somme sur toutes les permutations pour évaluer ça. Et la manière dont on s'y prend pour évaluer cet élément de matrice, c'est qu'on coupe en M tranches, c'est-à-dire qu'on évalue des éléments de matrice de E puissance moins bêta H sur M. Si vous voulez, c'est une température M fois plus élevée. Bêta est divisé par M, donc la température est M fois plus élevée. Et donc on introduit donc une relation de fermeture en R1, en R2, en RM, et on évalue comme ça des produits. Et bien le résultat dépend du nombre de tranches, comme vous le voyez. Là, il y en a 256, 512, 1024, 2048, et on ne peut pas dire que les résultats soient convergés. Donc la conclusion de Saito, qui est tout à fait légitime, c'est que la distribution de densité converge vers quelque chose qui n'est pas... Enfin, converge, c'est peut-être un grand mot, donne des résultats qui ne sont pas très différents de l'équation de Gross-Piechowski étendue, avec la correction Li-Wang-Yang, donc celle qui est écrite là-bas. Mais néanmoins, cette équation peut elle-même être imprécise à cause de la pression de densité locale. C'est la difficulté que je mentionnais tout à l'heure. Voilà. Bien. Eh bien, dans les 10 minutes qui restent, j'aimerais dire un mot des observations expérimentales, enfin un peu plus qu'un mot quand même, et la caractérisation de ces gouttelettes. Donc, les premières gouttelettes ont été vues à la fois dans le groupe de Tillmann-Pfau à Stuttgart et dans le groupe de Francesca Ferlaino à Innsbruck dans l'année 2016. Là, je vais décrire une expérience qui a été faite à Stuttgart, qui est vraiment très convaincante, qui a consisté à préparer un piège, un gaz dipolaire, donc, de dysprosium, dans un piège initial qui était à peu près isotrope, hein, vous avez les fréquences d'oscillation ici, dans le régime qui est stable. C'était le régime longueur de diffusion petit a, plus grande que la longueur de diffusion, que la longueur ADD. Donc là, à ce stade, G est plus grand que GDD, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, ils ont changé brusquement le champ magnétique ambiant de manière à diminuer la longueur de diffusion petit a, diminuer les interactions de contact, pour passer dans le régime A inférieur à ADD. Vous avez ici la gamme de champ magnétique qui est utilisée. Donc là, on espère former la gouttelette. Ils éteignent le piège et simplement, ils branchent un champ de lévitation, c'est-à-dire un gradient de champ magnétique, de telle sorte que la force magnétique qui agit sur la gouttelette compense exactement la gravité, donc les atomes peuvent rester en place. Donc ce qu'ils ont, enfin ce qu'ils espèrent avoir, et c'est effectivement ce qu'ils ont, c'est une gouttelette en lévitation, sans le moindre piège pour confiner les atomes, et on regarde ce qui se passe. On attend. Alors, on attend, et au bout d'un certain temps, on prend une image. Alors voilà des séquences d'images ici. Donc ça, c'est pour un nombre d'atomes très grand devant le nombre d'atomes critiques, le nombre d'atomes minimal pour avoir la gouttelette. Ça, c'est pour un nombre d'atomes un peu plus petit, mais néanmoins supérieur au nombre d'atomes critiques. Donc prenons la colonne de gauche. Donc c'est une image qui est prise vue de dessus. Hein, vous avez le dessin ici, vous avez la gouttelette qui est comme ça, et puis on l'observe par imagerie par absorption, et la caméra est au-dessus ici. Donc on regarde la gouttelette vue de dessus, donc on a un tout petit point, puisque la gouttelette, je vous rappelle, est très étroite. Et ce petit point, ben, effectivement, il reste tel quel. Il n'y a aucun piège pour la maintenir, si ce n'est ce champ pour la faire léviter. Et pendant une durée qui est de l'ordre de 70 millisecondes ici, le point reste sans problème. Et puis il y a un moment où le nombre d'atomes passe en dessous du nombre d'atomes critiques, et là, à ce moment-là, ben, la gouttelette commence à se déliter, commence à s'étaler, et puis à disparaître. Et si vous mettez moins d'atomes, eh bien vous observez la même chose, mais simplement le moment où la gouttelette disparaît et arrive plus tôt. Là, vous avez à 0 milliseconde, à 20 millisecondes, et puis à partir de 50, la gouttelette disparaît et commence à s'étaler. Voilà. Et l'interprétation de ça, c'est donc qu'on a une gouttelette très étroite vue de dessus. En fait, on n'arrive même pas à résoudre la taille transverse, hein, qui est une fraction de micron. Donc c'est juste un point qui donne l'imagerie, la résolution de l'imagerie. Elle reste là, et puis donc jusqu'à ce qu'on passe en dessous du nombre d'atomes critiques du fait des pertes. Je vous mets une courbe dérivée de ça, où vous avez la probabilité de voir ici une gouttelette, qui est donc de 100% à t égale 0. Elle reste voisine de 100% jusqu'à 40 ou 50 millisecondes, et puis après, elle tend vers 0 après 80 millisecondes. Et ça, c'est une mesure du nombre d'atomes dans la gouttelette, toujours en fonction du temps, où on part avec quelques milliers d'atomes ici. Le nombre d'atomes diminue, et puis il atteint ce nombre d'atomes critiques. Et là, ça nous dit que si vous voyez une gouttelette, eh bien, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 500 ou 600 atomes présents. Si vous avez moins de 500 ou 600 atomes, ben, vous ne voyez rien. Donc ça, c'est une détermination du nombre d'atomes critiques. Alors, ce nombre d'atomes critiques, il est tracé ici. Enfin, les mesures de ce nombre d'atomes critiques, c'est tracé ici. Donc, lui, je n'ai pas, j'ai pas fait de loi d'échelle. On pourrait aussi le faire avec l'approche que j'ai présentée, mais je ne l'ai pas fait ici. Mais ce que je vous montre ici, c'est donc, en fonction de la longueur de diffusion, donc ça, c'est ce que je vous trace ici, c'est petit a, si vous voulez, ou petit g, en fonction de la longueur de diffusion, ici, vous avez le paramètre epsilon dd, hein, en haut. Donc, epsilon dd égale 1.1, on est très proche d'avoir des interactions dipolaires égales aux interactions de contact, et puis là, on rentre dans le domaine des interactions dipolaires fortes. Et donc, on trace le nombre d'atomes critiques en fonction de ce rapport epsilon dd. Donc, ce qui est en bleu ici, c'est les prédictions fondées sur l'équation de Gross-Spitalski étendue. Les points noirs et les points bleus sont des résultats expérimentaux. Et ce qu'on voit, c'est que la tendance pour ce nombre d'atomes critiques, nombre d'atomes minimal, elle est bien reproduite par l'équation de Gross-Spitalski étendue, mais il y a néanmoins un décalage sensible. Les points rouges ici sont de nouveau des résultats obtenus par Monte Carlo quantique. Alors, on les obtient seulement pour les petits nombres d'atomes, hein, sinon la méthode est difficile à faire fonctionner. Ils sont compatibles avec les barres d'erreur des résultats expérimentaux. Enfin, il y a aussi des barres d'erreur sur le Monte Carlo. Les triangles rouges sont compatibles avec les résultats expérimentaux. Néanmoins, quand on regarde la tendance des triangles rouges, on se dit que si on avait des atomes plus grands, ce n'est pas clair que ça collerait aux résultats expérimentaux. Donc, je pense que là aussi, ce serait bien d'aller un petit peu plus loin pour vérifier ça. Dernière expérience que je veux mentionner, c'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Francesca Ferlaino à Innsbruck, toujours en 2016, qui finalement boucle la boucle dans ce cours, puisque ça revient à étudier des modes propres des gouttelettes. Donc j'avais commencé en vous parlant des modes propres des gouttelettes d'hélium, et là on finit avec les modes propres de ces gouttelettes d'atomes dipolaires. Ce qu'ils ont étudié dans ce groupe, eh bien, c'est prendre leurs gouttelettes très allongées, et puis changer pendant un court instant, la gouttelette est initialement dans un piège, donc changer pendant un court instant la fréquence du piège selon l'axe Z, et ils ont regardé ensuite l'oscillation longitudinale de ce mode-là, donc vous voyez comment RZ varie en fonction du temps. Donc ils mesurent la fréquence de ce mode-là, et ils tracent cette fréquence toujours pareil en fonction de la longueur de diffusion petit a caractérisant les interactions de contact, ou si vous préférez, la valeur epsilon dd, donc rapport entre contact et puis dipôle-dipôle. Donc quand on est dans le régime dominé par des interactions de contact, eh bien on a une fréquence relativement basse, on a vraiment affaire à un gaz, donc une fréquence basse, un système très compressible, donc une fréquence basse. Et puis quand on diminue la longueur de diffusion, c'est-à-dire qu'on augmente la valeur de epsilon dd et qu'on rentre en particulier dans le régime de gouttelette liquide qui est ici, eh bien la fréquence devient beaucoup plus élevée, le système est beaucoup plus raide et donc on obtient des points ici qui sont de manière remarquable en bon accord avec la ligne rouge qui est résultat de l'équation de Gross-Spitalski étendue. Donc là, étonnamment, ça marche vraiment bien, l'accord est quantitatif. Voilà. Bien, j'en arrive à la fin, en conclusion. Donc, quel est le message d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est que l'énergie de Li Wang-Yang permet de stabiliser un condensat dipolaire dans l'espace libre. C'est ce qu'on voit très bien sur ces jolies images du groupe de Stuttgart. Je vous ai présenté un traitement qui est le traitement qu'on voit dans la littérature. Hein. C'est pas moi qui l'ai proposé, utilise cette approximation de la densité locale pour injecter un terme supplémentaire dans l'équation de champ moyen. Au grand nombre d'atomes, on a atteint ce régime de densité constante qui est écrit au tableau, GDD moins G sur G Li Wang-Yang au carré. et on a pu dériver la forme de la gouttelette avec ses variations des rayons en n puissance 1,5 et n puissance 1 quart. L'accord entre les résultats expérimentaux, les résultats numériques par simulation Monte Carlo, et puis cette équation Li-Wang-Yang, comme vous l'avez vu, il est quand même raisonnable. Mais néanmoins, je pense que la morale, c'est qu'il y a une marge de progression, si je puis dire, parce que j'ai déjà dit, le traitement par grosse puissance étendue néglige la déplétion quantique, l'approximation de densité locale est sujette à caution. Et puis, quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais qui est important, c'est que dans la mesure où on a ces densités qui sont importantes, je vous ai dit qu'on a des pertes à trois corps qui sont importantes, et donc le système qu'on obtient, ce n'est pas vraiment un système qui est à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est un système, s'il était à l'équilibre, il serait vraiment solution de cette équation-là. Mais j'ai en plus un terme de perte qui est important, et ce n'est pas garanti que le système pris à l'instant T soit exactement l'état fondamental que j'obtiendrai à partir de cette équation-là. Pour vraiment rendre compte quantitativement des résultats, je pense qu'il faut prendre en compte les pertes qui se déroulent en fonction du temps. On a un équilibre dynamique qui se produit, et ce serait intéressant d'étudier les déviations entre une photo prise à l'instant T et puis la solution de ce type de formulation. Voilà. Donc c'est un système qui est intrinsèquement hors d'équilibre, et je pense que cet aspect hors d'équilibre mériterait aussi d'être approfondi. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je m'arrête ici et rendez-vous dans un quart d'heure pour le séminaire de Patricia Vignolo. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.